Il est 7h15. Faut-il encore envoyer des hommes dans l'espace? Sophie Becherel, bonjour.
Bonjour.
La question paraît incongrue si on pense au succès populaire de la mission de Thomas Pesquet, mais à l'occasion du Congrès mondial des astronautes en ce moment à Toulouse, incongrue ou pas, c'est la question que vous posez.
En effet, j'ai cherché à comprendre les ressorts qui nous conduisent à admirer, ou du moins à saluer, le travail de ces hommes et de ces femmes, alors que leurs aînés sont allés sur la Lune, eux ne font que séjourner dans une station à 400 km d'altitude.
Je crois que les astronautes, c'est des figures phares qui inspirent.
Vous l'avez reconnu, Bertrand Piccard, l'aventurier du 21e siècle, l'auteur du premier tour du monde en avion sans une goutte de fioul.
Moi, je me rappelle que quand j'étais enfant, entre 10 ans et 12 ans, j'habitais près de Cap Kennedy. J'ai rencontré presque tous les premiers astronautes du programme spatial américain. Et c'est ça qui m'a donné envie d'être explorateur. J'ai vu des gens qui acceptaient de prendre des risques, d'aller au bout de leurs rêves, qui avaient la persévérance et qui se donnaient les moyens d'y arriver.
Alors quel destin pour les jeunes qui ont suivi Thomas Pesquet? Choisiront-ils d'étudier les sciences, d'être aventuriers aussi? Vu les enjeux actuels, beaucoup d'enseignants-chercheurs comme François Forget, spécialiste de Mars, le souhaitent.
Le fait d'attirer des jeunes vers la science, sachant que la science, les technologies, c'est évidemment ce qui est capital pour l'avenir de la Terre, mais du pays, de l'économie française, on peut parler comme ça. Eh bien oui, je pense que de ce point de vue-là, les astronautes sont sans pareil. Et cet aspect-là d'exploration spatiale, qui est quand même très indirect, c'est un peu paradoxal de dire on envoie des gens dans l'espace pour motiver les étudiants, les écoliers, eh bien ça fonctionne. À notre petit niveau, avec nos petits robots sur les planètes, on peut participer un peu aussi, mais je crois que les astronautes pour cela sont sans pareil.
Servir de modèle, d'accord, mais avec quel message? Eh bien, changer nos comportements vis-à-vis de la planète, selon l'astronaute Philippe Perrin. C'est une conviction partagée par toutes les astronautes, pour une raison simple, selon lui.
Aujourd'hui, on ne monte toujours pas sur une fusée sans faire un pari assez fou sur ses chances de retour. Ça reste toujours aventureux. Mais la question, c'est pourquoi prendre ces risques? Et la réponse, elle est évidente. On ne prend pas des risques pour faire un tour de manège. Non, on prend ces risques parce qu'on pense qu'il y a une véritable raison d'aller là-haut. L'urgence environnementale, le réchauffement climatique, mais d'autres choses, la biodiversité et autres. Les astronautes se doivent d'être des ambassadeurs de ces problématiques.
Bien compris, mais la station spatiale reste coûteuse tout de même. 150 milliards de dollars.
Oui, alors ne pourrait-on pas baisser les coûts des études scientifiques qu'on y mène avec des robots, par exemple? La réponse de Jean-François Clairvoy.
Les robots sont très importants pour partir en éclaireur, pour les zones les plus inatteignables ou difficiles, comme les planètes gazeuses, Saturne, Jupiter. Mais un jour, on enverra les humains, parce qu'il n'y a pas mieux que l'homme pour faire de la recherche très sophistiquée. Vous savez que les meilleures roches lunaires ramenées de la Lune sont celles qui ont été ramenées par un géologue, Jack Schmidt.
Selon l'Agence spatiale européenne, la dépense par habitant dans l'Union est de 2 euros par an. Peu au regard des retombées, d'autant que ce qui est difficile, réputé impossible, est un aiguillon pour l'innovation selon Bertrand Piccard. Airbags, panneaux solaires, des sondes spatiales, télémédecine, on les a ensuite retrouvés dans notre vie quotidienne.
Je ne pense pas que c'est de l'argent gaspillé, vous savez. L'argent qui est mis dans la recherche, l'argent qui est mis dans la conquête spatiale, c'est de l'argent qui fait tourner les entreprises, qui payent des salaires, qui amènent des connaissances. Donc je pense que dans l'économie d'un pays normal, il faut que l'argent circule.
Et si c'était aussi une question de prestige, de pouvoir, la Chine est le dernier pays à être entré dans les nations qui maîtrisent le vol habité. Des taïkonautes depuis 2003, une station orbitale en construction et bientôt une base lunaire. Selon Isabelle Sourbès-Verger, chercheuse au CNRS, la stratégie de Pékin n'est pas tant de rattraper son retard que d'apparaître moderne.
La Chine vraiment coche les cases. Le spatial habité, c'est finalement quelque chose que seuls maîtrisent les États-Unis et la Russie. Et donc la Chine, en termes d'image, ne peut pas se permettre de passer à côté. On acquiert la compétence, on acquiert la technologie et ensuite on deviendra un partenaire tout à fait respectable. Et puis en parallèle, vous avez quelque chose qui est quand même assez inévitable dans tous les programmes spatiaux, c'est la communauté des ingénieurs. Et la communauté des ingénieurs du spatial, pour elle, le programme habité, c'est quand même le défi qu'ils ont envie de relever, parce que c'est extrêmement compliqué.
Et si enfin, aller dans l'espace, c'était une manière de se rassurer sur notre capacité à rester unis dans le monde? Dans l'ISS, 16 nations cohabitent pacifiquement, dont la Russie et les États-Unis. Vous avez remarqué que sur Terre, ces deux-là ont bien du mal à appliquer la recette de la convivialité spatiale.
Merci Sophie Becherel. Ce zoom d'Inter est à retrouver sur franceinter.fr.